Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Le monde entier est confronté au problème de changement climatique et d'après les experts, tout le monde doit s'impliquer pour sauver la planète. En RDC, par exemple, la déforestation reste l'une des causes principales des émissions de gaz à effet de serre qui sont à la base du réchauffement planétaire. Comment donc aider les communautés locales vivant dans les forêts à contribuer dans la lutte contre les changements climatiques? Nous en parlons avec notre invité, professeur Jean-Pierre Béat, qui est environnementaliste, et nous rappelons le numéro des contacts si vous êtes intéressé par rapport à ces sujets, vous pouvez appeler au 081 890 63 94. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook Okapi Service. Déjà, nous disons merci à Mavé qui a réagi sur la page Facebook d'Okapi Service et également Trésor Mouteba et Gershom Abonga. Voilà, vous également pouvez faire de même pour poser des questions ou bien faire part de vos préoccupations par rapport à ce sujet. Professeur Jean-Pierre Billard, rebonjour professeur.
Bonjour.
Voilà professeur, est-ce que on parle de ce phénomène de changement climatique également de la population qui doit aussi s'impliquer, notamment les communautés locales qui vivent dans les forêts, même celles qui recourent à la forêt pour des besoins liés à la vie au quotidien. Est-ce que comment on peut impliquer cette catégorie de la population dans la lutte contre le changement climatique?
Oui, merci beaucoup pour l'invitation, pour une fois de plus pour l'invitation. Et il faudrait dire aux auditeurs que le phénomène des changements climatiques est un phénomène réel. Et beaucoup de gens jusqu'à présent peut-être n'y croient pas, mais c'est un phénomène réel. Nous vivons dans les changements climatiques. En fait, avant de répondre à votre question, il faut comprendre, expliquer aux gens qu'est-ce que c'est les changements climatiques.
Oui.
Bon, les changements climatiques, en fait, est dû aux gaz à effet de serre et qui absorbent les rayonnements infrarouges et qui nous les renvoient sur à partir de l'atmosphère sur la Terre. Et ainsi, la température globale de notre planète augmente. Et lorsque cette température augmente, ça provoque ce qu'on appelle, en termes clairs, dérégulation climatique. En fait, le climat, c'est quoi? C'est l'ensemble des conditions météorologiques, donc la météo, la température, la pression, et pendant une période relativement longue. Et lorsque le climat glisse ou se déplace, ça change beaucoup de problèmes dans les comportements humains et dans la vie sociétale. Et maintenant, pour répondre à votre question, comment lutter contre les changements climatiques et comment
impliquer les communautés locales, oui.
La population locale, oui. De lutter contre les changements climatiques. Quand on dit population locale, c'est-à-dire notre population et la population indigène.
Oui.
Beaucoup de gens qui vivent dans des forêts comprennent très difficilement ces phénomènes. Alors, parce que vous parlez de la forêt. En fait, en réalité, la forêt est constituée des arbres et d'autres biodiversités. Et c'est des arbres qu'il s'agit. Parce que les arbres, c'est qu'est-ce que le carbone? C'est qu'est-ce que le carbone, ça veut dire quoi? Capte le CO2. Hein, et par le phénomène de photosynthèse et libère l'oxygène dont on a besoin. Alors, quand on coupe les arbres, la séquestration de CO2 devient moindre. En ce moment-là, le CO2 augmente. Et quand le CO2 augmente, en ce moment-là, la température sur la planète augmente. Pourquoi le CO2? Parce que c'est le gaz le plus visé. Il y a aussi d'autres gaz à effet de serre. Il y a le CO2, le méthane, l'oxyde nitreux, les CFC, et tous ces gaz-là sont des gaz à effet de serre parce qu'ils absorbent les rayonnements d'infrarouges en nous envoyant ces rayonnements sur la Terre. Donc le CO2 est plus visé par sa rémanence, c'est-à-dire qu'il reste longtemps dans l'atmosphère. Donc, comment lutter? C'est apprendre à ces gens d'utiliser d'une manière rationnelle la forêt. je ne veux pas dire que de l'interdire d'utiliser la forêt, parce que la forêt, c'est leur écosystème, leur milieu de vie. Et couper d'une manière correcte l'arbre, de façon à ce que les arbres se régénèrent. Alors, maintenant, ce n'est pas le problème de la population locale, parce que ce n'est pas la population locale qui pollue. C'est un problème mondial. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre, nous tous, l'évolution de la COP21. Il y a des grands pollueurs qui polluent le monde. Et ces grands pollueurs reconnaissent qu'ils sont en train de polluer le monde en émettant les gaz à effet de serre. Quelle est la solution globale qu'on doit prendre? Ce n'est pas le problème seulement de la population locale à laquelle vous allez dire de ne plus couper la forêt. Ça, ce n'est pas ce problème-là. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit résoudre le problème. On doit résoudre le problème d'une manière globale. Alors, résolvant d'une manière globale, nous allons maintenant voir quelle est notre contribution à la lutte contre le changement climatique. Il ne faut pas demander, ça c'est mon point de vue, il ne faut pas demander à un paysan qui vit de la forêt, c'est-à-dire que qui vit du bois, des chauffes. Oh, le bois de chauffe, c'est souvent les bois morts. De ne pas couper ces bois pour sa survie. Non. Le problème, c'est un problème global. D'ailleurs, vous avez suivi dans les statistiques, l'Afrique est née, pollue moins. C'est dans l'ordre de 1% ou peut-être 1 à 10% des gaz à effet de serre. Mais les autres, c'est plus que cela. Donc le problème est global. Je crois que...
Mais professeur, quand... Professeur,
à mon entendement, il faut résoudre ce problème d'une manière globale. Mais éduquer la population, utiliser d'une manière rationnelle, je parle bien des mots rationnels,
oui.
D'une manière rationnelle, la forêt. D'une manière rationnelle, la forêt aussi.
Parce que vous avez parlé d'une solution, c'est-à-dire résoudre le problème de manière globale, c'est vrai. Vous l'avez dit, la population doit utiliser de manière rationnelle la forêt. Mais quand vous dites de manière rationnelle, qu'est-ce que cette population doit faire?
Oui, d'une manière rationnelle, cela veut dire que utiliser ce dont on a besoin. Par exemple, je suis un pygmée, j'habite dans la forêt, j'ai besoin de bois de chauffe. Je coupe le bois, c'est souvent les bois morts qu'on coupe. Mais le problème chez nous, ce qui devient grave, c'est que les industriels viennent dans la forêt pour couper des bois d'une manière industrielle pour l'exportation. C'est ça le grand problème. Alors maintenant, il faut dire à ces gens-là qui coupent la forêt de savoir... comment régénérer la forêt, c'est-à-dire quand vous coupez un arbre, plantez d'autres arbres pour que la suite des régénérations continue. C'est cela. Alors vous n'allez pas demander à un pygmée de dire non, on n'allait pas couper de branches d'arbres ou bien de pour faire sa case ou bien couper les bois morts. Non. Donc la population locale, du moins en Afrique, là où nous sommes, n'a pas d'impact sur le changement climatique. Parce que ce que nous utilisons comme bois n'a rien, n'est pas considérable par rapport aux gens qui polluent ailleurs. Voilà. Donc, il y a l'exploitation exagérée du bois, de la forêt, des industriels, mais la population locale, ils ne font pas les inculper dans ce problème de changement climatique. Mais les comportements qu'ils doivent adopter,
oui.
Ils doivent connaître que s'ils coupent d'une manière exagérée, les bois, il y a des conséquences du changement climatique. Il faut qu'ils soient informés. Et quel est ce comportement? Alors, c'est les informer, voilà, si vous coupez cet arbre, il faut penser à replanter d'autres arbres pour que la génération d'arbres continue.
Voilà, professeur, on va poursuivre avec vous par rapport à ces sujets sur comment les communautés locales peuvent contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Henri Gobert nous appelle de Kinshasa et également à Kinshasa, il y a Noël. Nous rappelons pour ceux qui viennent de se joindre à nous, c'est le magazine Okapi Service. Nous parlons de ce sujet sur comment les communautés locales peuvent contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Il y avait notre invité, professeur Jean-Pierre Béa, qui est environnementaliste. Si vous êtes intéressé, appelez au 081 890 63 94.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Okapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Voilà, nous avons déjà, on va accueillir les premiers auditeurs, Rigobert qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Rigobert.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour au professeur.
On vous écoute, Rigobert. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Parlez un peu
d'accord.
Plus fort, oui.
Je connais bien les professeurs, il m'a enseigné.
Oui.
C'est vrai tout ce que le professeur est en train de dire, mais la population locale, là, souvent, la population ne sait pas.
C'est désolé pour Rigobert, n'est plus en ligne, peut-être qu'on va le retrouver. On reste à Kinshasa pour accorder la parole à Joël. Bonjour Joël.
Bonjour Marcel et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capitale.
On vous écoute.
Oui, j'ai eu à passer 7 ans dans mon village natal où j'ai fait mes études primaires et on vit essentiellement de la coupe du bois. Non seulement pour l'utiliser, mais aussi pour faire de l'agriculture, il faut couper les bois et après ça, il faut encore les brûler. Tout ça a de l'impact sur l'atmosphère parlant du changement climatique. Donc c'est là, je vais poser la question de savoir, est-ce qu'on peut impliquer la population locale et surtout ce qu'on est en train de dire là, si l'État n'a pas une politique de reboisement, parce qu'il y a des arbres qui poussent dans la forêt et on ne sait même pas quand est-ce que ça produit les fruits pour chercher à les reboiser, comme le professeur a dit que celui qui coupe un arbre doit penser à remplacer cet arbre-là. Est-ce que si l'État lui-même ne prend pas ses responsabilités, même si on informait la population locale, est-ce qu'ils seront en mesure vraiment de contribuer au reboisement?
Merci Joël d'avoir appelé de Kinshasa. Professeur Jean-Pierre Béard, qu'est-ce que vous dites à Joël?
Oui, évidemment, nous sommes soumis à l'autorité de l'État, mais il y a aussi notre responsabilité individuelle. Souvent, dans notre pays, il y a des collectivités qui sont organisées. Et quand il y a un phénomène qui apparaît dans le village ou dans la communauté, ils pensent à trouver la solution. Je crois que, à part l'État, qui apparemment dans notre pays est absent, je crois que les communautés, les gens organisés dans des communautés doivent prendre des dispositions pour régler les problèmes. Dans certaines communautés, il y a des intellectuels qui sont avertis, qui voient que les dangers arrivent. Ils peuvent se réunir, écouter, même dans nos villages. Dans nos villages, quand il y a sécheresse, quand il y a un phénomène qui arrive, les chefs du village appellent les villageois pour leur dire, voilà, tel phénomène arrive, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est parmi ce qu'il faut faire, c'est ce que nous disons là. S'il y a un phénomène de changement climatique qui arrive, ou que vous sentez que cela arrive, donc il y a lieu d'informer la population. Aussi, l'État est responsable de tout ce que nous... Enfin, l'État est responsable de la société. Nous avons le ministère de l'Environnement et Tourisme, et ce ministère doit prendre des dispositions pour savoir comment éduquer les gens, quelles sont les mesures qu'il faut prendre. Le monsieur qui a téléphoné tout à l'heure, il a raison, parce qu'on ne peut pas prendre certaines initiatives privées sans consulter l'État. C'est ça les problèmes. Donc je crois qu'il est temps de se prendre en charge, comme disait un ancien président, de se prendre en charge. Si vous êtes membre d'une communauté, vous êtes suffisamment informé par le phénomène, il faut réunir les membres de la communauté pour leur dire, voilà, nous sommes devant tel phénomène. Voici les conséquences qui vont se passer. Voici ce que les autres sont en train de faire. Et quelles sont les dispositions qu'ils devront faire? Et quelles sont les mesures qu'ils devront prendre? Il a raison parce que quand on coupe du bois, d'abord, la quantité d'arbres diminue, la séquestration diminue aussi. Mais en plus de cela, il faut chauffer le bois. Et le bois émet le CO2, qui est le gaz à effet de serre. Et une des solutions pour nous, je crois que, revient à l'utilisation des énergies qu'on appelle les énergies renouvelables. C'est ça le grand débat qui se fait ailleurs maintenant, qui se fait en France. Quelles sont les énergies de substitution qui émettent moins de gaz à effet de serre? Ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Par exemple, l'utilisation des solaires, l'utilisation des énergies éoliennes. Bon, ce qui ne peut pas arriver chez nous pour le moment. Mais surtout, nous avons une grande ressource d'énergie hydroélectrique. Pourquoi ne pas, par exemple, électrifier les quartiers, électrifier les villages?
Oui.
Ça diminuera aux villageois, n'est-ce pas, d'utiliser les bois et d'utiliser d'autres combustibles fossiles qui peuvent émettre les gaz à effet de serre.
Donc,
ça, c'est au niveau
oui.
De... J'ai connu, j'ai eu la chance de voyager un peu en Afrique, par exemple au Cameroun, vous trouvez des villages entiers avec de l'électricité. Un villageois qui quitte son champ, il est revient à la maison, il a sa bière fraîche, il écoute la musique, il y a de l'électricité. Donc ça diminue. Je ne dis pas que ça va annuler, mais ça diminue les émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, c'est la responsabilité de l'État. Il faut que les gens voient ces choses-là de plus près.
De fondant,
oui. Il faut la prise de conscience, comme nous faisons ici avec la radio au Capi, la prise de conscience des communautés. Les gens qui sont beaucoup plus évolués dans les communautés doivent réunir leurs membres, leur dire voilà, nous sommes dans les changements climatiques, il y a tels phénomènes qui vont apparaître, il faut prendre telle disposition. Si nous avons l'habitude d'utiliser abusivement les bois, diminuons cela et faisons un effort d'avoir des énergies renouvelables. Demandez par exemple l'investissement dans les quartiers, l'établissement des réseaux électriques, surtout l'électricité hydroélectrique, le courant, l'énergie hydroélectrique, qui est une source propre d'énergie.
Voilà, professeur, il y a
des précautions qu'on peut prendre.
Tout à fait.
Donc, les gens peuvent s'organiser.
Oui.
Ils ne font pas s'accrocher toujours à l'État. Vous connaissez l'État de notre pays. c'est sans commentaire.
Professeur, nous avons également une auditrice en ligne. C'est Madame Pacifique qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Madame.
Bonjour, Radio Capi.
On vous écoute, Madame.
Oui, moi, je m'adresse au professeur. Hein. Vous savez, ici à Kinshasa, la plupart de personnes et qui écoutent la radio Kaki sont des intellectuels, si on peut dire entre parenthèses, des gens qui comprennent quand même quelque chose, donc qui connaissent le français à fond. Alors, il y a la plupart aussi des gens ici à Kinshasa qui n'écoutent pas la radio Kaki, qui n'écoutent pas en général les radios, si je peux dire. Alors, les émissions de la radio Kaki, c'est en français. Comment on peut faire maintenant pour atteindre le fond, les faits fond vraiment du milieu? Parce que il y a un certain quartier, moi, nous étions là, bon, un groupe des relais communautaires, on a voulu sensibiliser les gens sur, disons, le réchauffement climatique, la montée des eaux et tout. Alors, c'est juste un quartier qui est au bord de la rivière. On trouve que les poubelles, tout ce que les gens ont, comme ils m'ont dit, se jettent dans ces eaux. Alors, aujourd'hui, c'est un peu de pluie, il y a l'inondation dans leur quartier. Vraiment, toutes les maisons sont pleines d'eau. Alors, on a essayé d'expliquer aux gens de ne pas jeter les immondices. Donc, c'est toujours difficile à écouter, difficile à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une sensibilisation qui vient d'un niveau élargi, quoi. Et un niveau peut-être national et tout. Ils trouvent que les relais communautaires sont quoi? Et on se parle de vaccins et tout. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Ce sont les choses que nous trouvons au quotidien. Alors, est-ce qu'il y a une organisation sensibilisée les gens, les analphabètes, comment utiliser? Parce qu'aujourd'hui, on parle de COP21. Et qui comprend que signifie COP21? Pourquoi les chefs d'État se regroupent pour faire trouver une solution? Ils ne savent pas. Donc, il faut une sensibilisation dans nos langues locales pour pouvoir y arriver, si comment je trouve. Merci.
Merci, Madame Pacifique. Merci d'appeler les Kinshasa. On reste à Kinshasa pour accorder la parole à Peter. Bonjour, Peter.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati.
Voilà Peter, on vous écoute.
Oui, merci. Moi je voudrais intervenir par rapport à... Je vais vous réagir à ce que l'invité venait de dire là. Et vous savez, nous avons un problème sérieux au niveau de nos communautés. C'est-à-dire que les communautés, quand ils coupent le bois, le plus souvent c'est pour faire le bois de chauffe, c'est pour retirer, faire la cuisson des aliments. Alors, ils sont moins intéressés au reboisement. C'est-à-dire que, quand ils coupent, par exemple, les autres arbres qui poussent, le baobab, les EVA, mais au contraire, ce sont des légumes, le pandou qu'ils plantent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été vulgarisés sur le remplacement qu'ils ont fait. C'est-à-dire que quand vous coupez, par exemple, un baobab au niveau de la forêt équatoriale, comme c'est le cas chez moi, mais il faut que les communautés soient instruites sur qu'est-ce qu'ils doivent reboiser. C'est-à-dire que ce n'est pas vous coupez le bois de VA, et puis après, vous allez replanter le pandou, par exemple. Et puis le pandou, quand il le replante, là, c'est au bout de 3 semaines, 1 mois, et tout de suite, il va encore essayer de le récolter pour manger. Moi, je pense que la solution la plus durable réside dans ce que le gouvernement puisse s'impliquer en essayant en amont d'électrifier nos communautés. Parce que si nos villages ont de l'électricité, parce que le Congo aujourd'hui nous avons un potentiel important d'énergie électrique, Et je pense que si en amont, on arrive à électrifier nos localités, électrifier nos villages, les villageois, nos communautés couperont moins de bois de chauffe pour la cuisson des aliments. Et c'est comme ça que nous allons préserver nos forêts. Alors ça, c'est encore une des commentaires que je voulais faire à la radio au Capi. Par exemple, chaque fois que vous avez des invités que vous qui sont là sur le plateau, le plus souvent, je ne sais pas, à moins que je me trompe, ce ne sont pas les experts du gouvernement, ce ne sont pas les gens qui travaillent au niveau du gouvernement. Moi, je suggérais à ceux de l'avenir pour une efficacité dans la démarche que vous nous invitiez le gouvernant qui est en place, par exemple le ministre de l'Environnement ou quelqu'un au bureau de cabinet avec qui nous allons nous entretenir comme ça. Nous sommes rassurés que toutes nos recommandations sont directement considérées par le ministère. Et que lesquels pourront être canalisés après dans leur politique pour essayer de nous aider. Parce qu'on parle, nous parlons avec vous, Marcel, nous parlons avec la radio Capite entre nous-mêmes, le plus souvent avec les invités, qui n'ont rien à voir avec l'implication dans le gouvernement. Et c'est comme ça que rien ne change. Donc moi, je suggérerais assez qu'en amont, on écoute par exemple nos communautés, et en aval, on vulgarise la population sur le rang de bois qu'on doit couper.
Merci Peter d'avoir appelé de Kinshasa. On retourne à notre invité, le professeur Jean-Pierre Béat. Professeur, vous avez suivi Pacifique, Madame Pacifique, qui a insisté sur la sensibilisation. Il faut davantage sensibiliser, et pourquoi pas dans nos langues locales, dans les langues vernaculaires, et surtout avoir des relais communautaires qui peuvent apporter plus haut le message sur le problème de un réchauffement climatique au sein de communautés, en tout cas villageoises. Et vous avez également suivi Peter qui a parlé de au niveau du gouvernement, il faut des efforts pour électrifier par exemple les villages. Et ça permettra à la population de recourir également de moins en moins à la forêt pour utiliser le bois. Professeur Jean-Pierre Béat.
Oui, pour répondre à la question de madame, je crois que Francine, chose comme ça.
Le Pacifique.
Alors, elle a raison, en partie. Bon, en fait, le français, c'est la langue officielle, la langue officielle, parce que nous avons des langues vernaculaires. Alors, on suppose que les Congolais parlent français. Bon, il est bien vrai que d'autres communautés n'arrivent pas à comprendre ce que se passe. Mais quant au programme des émissions en français, ça c'est là-bas dans votre camp. Vous pouvez vous organiser pour trouver comment on fait les débats en Lingala et aussi les Congolais ne suivent pas les radios, des radios. Les radios qui suivent, c'est des radios, des religions, là on les promet des mots et des merveilles. Et pour suivre des informations à la radio, des radios comme Okapi, RFI ou BBC, c'est un grand problème. Il faut mettre la radio et la musique. Tout le temps, les gens, on presse. C'est ça la grande difficulté, c'est cette culture-là. Encore moins, vous devez trouver un Congolais à acheter un journal. Et le journal, on achète un morceau de journal, photocopié. Vous voyez, c'est toute autre culture que nous avons, l'information. Et là où il y a la musique, on écoute, là il y a la prédication religieuse, on écoute. Mais écouter des radios importantes où il y a des informations, c'est pas seulement les Congolais de manière générale, aussi nos étudiants. Moi, je suis professeur, j'enseigne, et chaque fois au début de mon cours, je demande aux étudiants qu'est-ce qu'ils ont appris de nouveau sur nos antennes, sur les radios, concernant le changement climatique, concernant la santé. Quelqu'un va me dire, non, chez moi, il y avait des stages, il n'y avait pas de courant. Des choses comme ça. Ils ne suivent pas. C'est une culture, nous allons faire un effort, n'est-ce pas, à partir des étudiants, qu'on suppose sont des élites demain, pour avoir cette culture d'écouter la radio, d'écouter des choses importantes du pays. Et c'est ça le grand problème des Congolais, plus particulièrement des Kinois. Nous allons, je crois qu'au niveau de la radio, vous allez faire un effort de faire des programmes spéciaux concernant ces informations-là. Maintenant même, il se passe la COP21. Je ne sais pas combien de gens savent qu'est-ce que c'est la COP21. Les étudiants même, est-ce qu'ils savent ça? Est-ce qu'ils font des débats entre eux? Non, ce n'est pas des problèmes, c'est autre chose. Revenons à notre ami de Kinshasa, qui a parlé du gouvernement. Combien de fois vous avez invité les membres du gouvernement, qui étaient moi, combien de fois vous avez invité les membres du gouvernement ou les gens du ministère de l'Environnement pour s'expliquer concernant ces problèmes du changement climatique, concernant les problèmes d'environnement, des pollutions? la plupart ne veulent pas venir, c'est justement pour ne pas se mettre en contradiction avec les gouvernements par rapport à, aux réalités que nous vivons. Ils ont peur de venir, de présenter, parce qu'ils ne veulent pas être entrés en contradiction avec les autorités. Ils entrent en contradiction avec leur chef, vous comprenez, il va de leur carrière, hein, c'est ça le problème. Alors je crois que c'est une remarque importante, il faudrait que nos gouvernements aient le courage de venir présenter les problèmes devant les radios, devant le public, et s'expliquer et prendre des mesures concrètes. Et souvent quand, comme je viens de le dire, ils ont peur, ils n'ont pas ce courage. Dans ce moment, c'est ce que je peux faire comme contribution pour le moment.
Voilà, voici, après plusieurs auditeurs de Kinshasa, on a maintenant des auditeurs qui nous appellent de l'intérieur du pays. Ça nous fait plaisir. À Joseph Pungu qui est à Kindu et à Joël Zakissa qui est à Arou. Joseph Pungu, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à notre invité, à tous les auditeurs de la radio Capi. J'ai bonjour. Des préoccupations à demander à notre invité. La première, c'est de demander d'abord la différence qui existe entre le climat et l'atmosphère. De deux, j'aimerais demander les phénomènes climatiques ici chez nous au Maniema. Nous avons problème de température, il fait totalement chaud. C'est maintenant que le premier ministre vient de lancer quelques initiatives pour faire planter les arbres à côté de la ville. Est-ce que cela peut vraiment changer vraiment la température ici chez nous? Parce qu'on ne sait pas si planter les arbres, ça peut vraiment avoir un bon climat, ou soit ça ne peut jamais avoir. Parce qu'ici chez nous, nous n'avons pas moins 90% de degrés de la température. C'était ça vraiment ma préoccupation, d'avoir de connaître d'abord les phénomènes pour avoir un bon climat dans un village, dans une ville. C'était ça ma préoccupation.
Merci Joseph Mpungu, depuis Kindwa, Arouse, Joël Zaki, c'est en ligne. Bonjour Joël.
Ok, bonjour monsieur l'invité, bonjour également à les aux journalistes, quoi. Ah non, aux auditeurs. Oui, alors?
Oh, vous êtes en ligne, allez-y, Joël Zakissa, vous êtes en ligne, allez-y.
Ok, en tout cas, merci beaucoup, c'est Joël Zakissa, depuis Mike.
Oui.
J'ai des préoccupations à poser à monsieur l'invité. La première, pourquoi doit-on lutter contre les changements climatiques? Parce que ces derniers temps, nous voyons, la pluie pleut presque abondamment, alors pourquoi doit-on lutter pour ces derniers? Maintenant, la deuxième préoccupation, nous voyons dans des villages, il y a pas mal des habitants des villages qui ont en tout cas l'habitude d'être des braises, ils coupent les bois et maintenant ils vont faire des braises pour payer l'école. Maintenant, quand peut-être, on va dire de ne pas commencer à couper ces bois-là, comment est-ce que la population des villages va commencer à manger, à payer l'école et puis à payer les frais hospitaliers? Alors, vraiment, je vois que ça risque de poser un problème. Maintenant, il faudra que le gouvernement puisse faire quelque chose. Parce que quand on va dire à la population des villages, parce qu'il y a des gens là qui disent que non, il ne faut pas commencer à couper des bois. Or, c'est juste ces bois-là qui aident la population des villages à payer l'école, à manger, à se vêtir. Et pas mal d'autres besoins. C'était Joël Zakissa depuis Mag. C'est tellement des préoccupations là.
Merci Joël Zakissa depuis Mag. Professeur Jean-Pierre Béard, vous avez suivi Joseph qui a cherché à savoir la différence entre le climat et l'atmosphère. Oui.
Oui, bon, ok. J'ai mon autre ami Joseph de Kindu. Il ne pas confondre le climat et l'atmosphère. Le climat, c'est un ensemble de conditions météorologiques. Quand on parle de la météo, c'est-à-dire la température, les pressions, la pluviométrie, et toutes ces conditions météorologiques-là forment un climat pendant une période relativement longue. Hein, c'est ainsi que dans notre pays, on parle de climat tempéré, climat tropical. C'est dans notre pays, nous avons le climat tropical, caractérisé par des saisons, saisons fraîches et saisons pluvieuses. C'est ça, l'ensemble des conditions météorologiques, la température, la pression, la pluviométrie, pendant une période longue. Le climat, ce n'est pas une période de 10 ans ou de 15 ans, c'est parfois ça peut arriver à 50 ans. Et nous, depuis que nous sommes nés, nous savons que dans notre pays, nous avons des saisons sèches et saisons de pluie. Alors, maintenant, ça fait notre climat tropical. Mais l'atmosphère, c'est quoi? L'atmosphère, c'est un espace gazeux où nous avons l'air, hein, avec plusieurs couches. L'air, plusieurs couches, n'est-ce pas? L'air, c'est un mélange, hein, formé de plus de gaz, de CO2, de l'oxygène et de l'azote. Et cet espace gazeux-là forme ce qu'on appelle l'atmosphère qui est au-dessus de nous. hein, au-dessus de nous, c'est-à-dire au-dessus de nos têtes, il faut parler vulgairement. Alors, maintenant, notre ami de...
Non, non, il a également parlé au fait de plus en plus chaud à Kindu, et puis il y a le Premier ministre qui a initié une opération enfin, on est en train de planter des arbres dans la ville. Il a cherché à savoir est-ce que ça fait partie de solutions face à ces fortes chaleurs qui sont signalées dans la ville de Kindu.
Planter les arbres.
Oui, oui, dans la ville de Kindu.
Oui, mais planter des arbres, c'est des précautions, c'est des bonnes mesures, hein, c'est des mesures d'atténuation. Alors, quand vous plantez des arbres, et c'est pour favoriser la séquestration de carbone, de CO2. Et quand, dans la ville de Kindu aussi, on a pris l'initiative de planter les arbres, c'est des bonnes initiatives. Ce sont des initiatives qu'il faut apprendre aux enfants, aux jeunes enfants, de planter des arbres, avoir des arbres autour de soi. Mais quand vous êtes sous les arbres, vous avez plus d'oxygène. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, le CO2 est séquestré par le phénomène de photosynthèse. C'est des mesures encouragées. Ce n'est pas de mauvaises mesures. C'est des mesures encouragées, planter des arbres, et ça permet de séquestrer le CO2 et de libérer l'oxygène dont on a besoin. C'est des très bonnes mesures.
Voilà, et là, Joël Zakis a cherché à savoir pourquoi doit-on lutter contre le changement climatique. Et puis, il a également posé la question de savoir à la population qui recourt au bois pour survivre, il n'y a pas d'autre solution. Alors pour la population locale, il n'y a pas d'autre alternative pour le moment.
Oui, il a même parlé, mais pourquoi lutter contre le changement climatique parce qu'il pleut chez eux abondamment. Non, ce n'est pas ça le problème. Quand il y a un changement climatique, il y a des phénomènes probables, deux phénomènes. Soit il y a la sécheresse, soit il y a les inondations. Sécheresse, c'est-à-dire que l'augmentation de température a fait que il n'y a pas de pluie. Soit les inondations, parce que les niveaux des mers et des eaux augmentent. Et quand ces inondations arrivent, elles engloutissent des maisons, engloutissent des plantes, et ainsi de suite. Les changements climatiques, ce n'est pas seulement parce qu'il pleut, puisqu'il pleut abondamment chez vous, vous dites qu'il y a les problèmes de changement. Non. Parce que les changements climatiques peuvent entraîner aussi une grande pluviosité. Mais vous savez qu'il y a certaines plantes qui ne supportent pas beaucoup de pluie. Qui supportent de pluie et moyennement de pluie. Par exemple, le maïs, je ne suis pas agronome. Et le maïs ont un certain degré d'acceptation de pluie. Quand les pluies dépassent, il y a des problèmes qui se posent au niveau des épis de maïs, et beaucoup de problèmes. Donc, parce qu'il pleut abondamment, donc il n'y a pas de changement climatique. Non, non. Les effets du changement climatique se manifestent par la sécheresse et par d'autres phénomènes que nous observons maintenant.
Alors, professeur, s'il vous plaît, avant de répondre à la deuxième question de Joël sur les populations locales qui utilisent le bois, je préfère lire rapidement, parce que la question se recoupe. Hein. Lire rapidement, c'est deux questions de Moïse Tisambika qui nous écrit ceci. Deux questions me suffisent à poser à l'invité. Que pense l'invité sur la pratique qu'adoptent certaines autorités provinciales à travers le pays, notamment de la province du Kasaï occidental démembré, où nous vivons présentement, en procédant à couper tous les anciens gros arbres qui datent de l'époque belge, plantés le long des grandes artères ou dans certains parcs réservés à l'abri des habitants pendant les temps chauds, sans penser à replanter d'autres arbres. Et il écrit ceci également, naturellement, les lieux ruraux sont des endroits le plus occupés par une grande partie, sont des endroits où la population forestière habite et exploite d'une manière incontrôlée et irrationnelle pour subvenir aux divers besoins familiaux. Comment alors les aider à exploiter les forêts sans exposer l'environnement aux conséquences que dénonce le monde aujourd'hui? Pour ce Jean-Pierre Bia.
Oui, bon, il a parlé des anciens arbres. Évidemment, la séquestration de carbone par les arbres est en fonction de la plante et en fonction aussi de la durée de la plante. Un arbre qui est vieux de plusieurs années ne séquestre pas le carbone de la même manière qu'une jeune plante. Hein. De vieux arbres, les agronomes peuvent nous les démontrer. Les jeunes arbres séquestrent beaucoup mieux les CO2 que le vieux. Alors, si vous trouvez qu'un arbre est devenu vieux, qu'il n'est pas à mesure de séquestrer le carbone, on peut le couper et songer à remplacer cet arbre par un autre, le plus jeune. Hein. Alors, si le vieux arbre, ça cause des problèmes, par exemple, avec des intempéries, le vent, et ça peut tomber et causer des accidents, beaucoup d'autres problèmes. Reboiser, c'est ce qu'il faut faire, avoir des plantes, de jeunes plantes, qui peuvent séquestrer facilement le carbone. Et quand l'arbre, c'est comme un homme, quand il vieillit, ses capacités physiologique diminue aussi. Et parmi ses capacités physiologiques, c'est l'absorption et la sécrétion de carbone. Ils l'ont fait en sachant que cela est comme ça, ou bien ils l'ont fait peut-être dans le cadre de l'urbanisation. Bon, il y a maintenant l'incompatibilité, il y a parfois la dualité entre l'urbanisme et l'environnement. Faudrait-il couper des plantes pour mettre une route ou construire la maison, ou faudrait-il laisser les choses comme ça? Et maintenant, dans ce cas-là, il faudrait trouver la solution, le juste milieu, voir si nous coupons ces plantes pour faire passer un boulevard, quelles sont les mesures de substitution? Alors, à côté des boulevards, peut-être vous allez mettre des plantes, c'est comme j'ai vu sur le boulevard Lumumba, on a mis des plantes qui sont en train de pousser. Justement, ça, c'est des mesures de substitution. Donc, cette dualité entre l'environnement et l'urbanisme existe, mais il faut gérer ces problèmes-là. Alors, on revient au problème de M. Joël, je ne sais pas de Kindou, je ne sais où, là. Il a parlé de la braise. Les gens ont l'habitude d'aller couper des arbres pour faire la braise. Bon, c'est du charbon, parce que la braise, c'est le charbon qui est ardent. Bon, c'est du charbon. En fait, quand on vous dit de ne pas couper et de ne pas faire la braise, et qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pas comme je suis enseignant, j'ai dit, ah là c'est zéro, je barre. Mais qu'est-ce que je donne comme correction? Mais quand il y a un problème, vous dites, ne faites pas ceci. Alors, trouvez la substitution. Les gens qui vous disent de ne pas couper les arbres, alors, il faut leur poser la question. Vous me demandez de ne pas couper les arbres. Nous vivons de la braise. Qu'est-ce que vous nous demandez de faire? C'est ça le problème qu'on est en train de débattre dans les plus hautes instances de l'environnement à Paris. Il faut trouver des solutions de substitution. Vous demandez aux gens de ne pas couper les arbres. Ok, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il faut leur demander? Qu'est-ce qu'il faut leur donner? Donc, il faut financer d'autres activités qui permettent, n'est-ce pas, aux gens-là de vivre et de ne pas couper les arbres. Et c'est cela, ces financements, ces fonds-là qu'il faut faire. Et ça part des activités de l'État. L'État doit comprendre, par exemple, un pygmée qui vit dans la forêt et qui a besoin de la braise, pour l'empêcher de ne pas couper la braise, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la braise, il utilise cette braise pour vendre et payer les minéraux de ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il vend la braise pour se faire soigner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution de cette situation? C'est cette solution-là qu'il faut trouver au niveau de l'État et au niveau international.
Voilà, merci beaucoup, professeur Jean-Pierre Béat. Nous rappelons que vous êtes environnementaliste. Avec vous, on a parlé de comment les communautés locales peuvent contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Au revoir.
Merci beaucoup.